Hérétique, Père Philippe, 13 décembre 1996, Saint-Jodard.
Bon, c'est l'induction. C'est-à-dire, essayer de découvrir d'une façon critique les deux mouvements de l'intelligence. Il y en a trois, en réalité. Le mouvement inductif et le mouvement déductif. Vous verrez ça dans tous les manuels. Et ce qui est intéressant, c'est d'en faire vraiment la critique. Vous voyez, c'est le devenir du nous. C'est le devenir de l'intelligence. L'intelligence par nature en soi n'implique pas ce mouvement. L'esprit par lui-même n'implique pas le mouvement, puisque le devenir, l'esprit est un être parfait, est un être qui a une qualité, une noblesse tout à fait particulière. Le devenir est lié à la matière, le devenir est lié à la potentialité, et donc n'est pas lié à l'esprit. Il y a un devenir spirituel et il y a un devenir physique, c'est sûr. Mais l'intelligence par elle-même est au-delà du monde physique. Donc l'intelligence par elle-même n'explique pas le point de vue du devenir, ni physique, ni spirituelle. L'intelligence par elle-même est tournée vers la fin, vers la perfection. Mais cependant, notre intelligence, notre esprit, a ce mode particulier de devenir. Un devenir spirituel qui dépasse un devenir matériel. Il n'y a pas de difficulté à ce qu'il y ait un devenir dans l'esprit, parce que nous avons vu que la distinction de l'être et de la puissance et de l'acte est une division qui se situe au niveau de l'être et qui par là explique comment le devenir existe, même dans l'intelligence. Et un aspect du génie d'Aristote, c'est d'avoir compris qu'il y a un devenir dans le nous. Leonide est mis en valeur très fort chez Heidegger. Heidegger s'appuie sur Parménide. Parménide, c'est le philosophe qui veut rattraper l'oubli de l'être et qui accuse la philosophie européenne d'avoir oublié l'être. Et c'est pour ça, pour lui, il y a l'être qui est acte. Il y a l'être matériel qui est devenir. Laissons ces positions philosophiques. Regardons au point de vue critique. Je crois qu'on peut dire que Aristote est le premier philosophe grec à découvrir dans l'être à devenir, à découvrir dans l'esprit à devenir. Et c'est ce devenir de l'esprit qui est le raisonnement. C'est ce devenir de l'esprit qui est le raisonnement déductif et inductif. Raisonnement déductif et inductif qui exprime comment il y a un devenir propre à l'esprit, à l'intelligence. Et toute la logique se développera parfaitement dans la logique du raisonnement. Raisonnement inductif, l'induction proprement dite, la logique dit très peu de choses. Tout le développement de la logique est du côté déductif. C'est aussi très intéressant de voir ça. On essaiera de comprendre au terme en critique pourquoi d'un problème très délicat, très difficile et très intéressant. Je crois qu'en effet, c'est tout à fait propre à Aristote d'avoir découvert ce qui, d'une certaine manière, est très simple, puisque c'est toujours sous nos yeux le raisonnement. Un grec découvre le raisonnement facilement parce qu'il l'aime. Et il voit qu'il y a un raisonnement qui monte et un raisonnement qui descend, transposé au point de vue de l'esprit. Ce que vous avez au point de vue, tout simplement matériel, où on monte, où on descend, l'aller et le retour pour une montagne. Vous avez deux paysages tout à fait différents. Et le raisonnement, c'est bien cette montée. Bien cette descente. Le raisonnement implique les deux. Le raisonnement inductif implique la découverte, donc la montée. Le raisonnement déductif implique la descente, donc la conclusion. Et Aristote dira que le raisonnement déductif, lorsqu'il est au niveau du nécessaire, engendre la science. Donc, pour comprendre ce qu'est la science, type aristotélicien, je ne dis pas type moderne, il faudra ensuite regarder a priori, mais qui est la pureté du raisonnement a posteriori. Le raisonnement a priori, c'est un raisonnement qui se fait à partir de la définition. Le raisonnement a posteriori, qui se fait en se servant des effets. On découvre l'existence de l'être premier. Alors, vous avez là trois types de raisonnement. Et au point de vue critique, nous essayons de saisir le fondement de ces trois raisonnements. Y en a-t-il d'autres parmi les modernes? On a d'autres types de raisonnements. plus évident. Vous partez d'une définition et vous l'appliquez à l'individu. Donc c'est extrêmement simple. La définition est l'universel le plus classique qui soit. Quand vous définissez quelque chose, vous savez que ce quelque chose s'étend à toutes les réalités individuelles sur qui la définition porte. Pierre est un homme si l'homme est un animal raisonnable. Pierre est un animal raisonnable. Je crois que vous acceptez tous ce raisonnement. Mais vous voyez que ce raisonnement est très curieux. Bon, il vous donne une connaissance par la cause, donc scientifique. Il ramène une propriété à sa cause. Et il fait que ce qui est attribué est relié à la réalité grâce à sa définition. Pierre est un homme. Vous ramenez Pierre à sa définition. Et vous regardez après les propriétés de la définition. Et vous pouvez, grâce à un raisonnement, ramener ses propriétés comme existant nécessairement cette réalité. Tout homme est capable de rire. Pierre est un homme, donc Pierre, qu'on ne voit jamais rire, est capable de rire. Raisonnement classique et raisonnement qui permet d'attribuer à Pierre d'une façon scientifique tel ou tel attribut. Et vous avez l'inverse négatif. Cet animal qui est là ne rit jamais. Tu n'arriveras jamais à le faire rire, puisque dans sa définition d'animal est impliqué qu'il est incapable de rire. Mais ça ne regarde pas seulement des faits, mais grâce à la définition, ça touche à la nature. Et donc, grâce à sa définition, je peux préciser que cet animal peut nécessairement le plus intelligent, le plus fort en raisonnement, en logique, pas tout le monde. Et à ce moment-là, grâce à un raisonnement logique très fort, qui est la démonstration, l'adversaire est coincé. Plus rien dit. Alors, analysons ce raisonnement. Et puis il y a le raisonnement. Et puis il y a une réalité. comme ça, vous savez. Ça existe. J'ai entendu dire de gens qui s'occupent de cette question-là. C'est vrai, normalement. Pierre sait rire et rit. Il rit peu. Il a beaucoup de peine à rire, c'est possible. Il rit quand même de temps en temps. Il est toujours un petit peu dans son coin. fera pas progresser la connaissance. S'il progresse et qu'il connaît ce qui est nécessaire pour qu'il progresse et puisse rire, à ce moment-là, il y aura à rééduquer le rire. Parce que très vite, les choses se sclérosent. Très vite, il y a des relations qu'on n'arrive pas à saisir. Pas à saisir, il n'y a plus de progrès. Parce qu'on progresse toujours par des relations nouvelles et on met des liens entre les relations. Donc, au point de vue critique, puisque c'est ça qui m'intéresse, au point de vue critique, l'intelligence est capable de saisir dans une réalité qu'elle connaît qu'il y a des progrès dans tel sens. S'orienter et progresser dans tel sens. Et ces sens, c'est toujours des réalités possibles qui peuvent s'actuer. C'est des relations possibles qui peuvent s'actuer. Je progresse en découvrant de nouvelles relations. Je peux y aller en tâtonnant. Alors je perds beaucoup de temps. Je peux y aller de façon beaucoup plus précise. En me servant du résultat. Alors comprendre que les relations, en me servant de ces relations, et en faisant vite l'apport de ces relations pour aller beaucoup plus vite dans le progrès. Pour que cela puisse exister, il faut regarder universel dont je me sers. C'est grâce à l'universel que la science existe. Il n'y a pas de science sans universel. Et l'universel est présent dans l'induction, permettant ainsi le progrès, de découvrir dans l'universel attribué. Donc dans l'attribution universelle, de découvrir des cas nouveaux qu'on n'a pas vus et qu'on attribue au sujet. Et en l'attribuant au sujet, on découvre de nouvelles relations. Au fond, le progrès de la science, ce sont de nouvelles relations pour établir des lois. Les lois, ce sont tout simplement des relations qui apparaissent comme s'imposant d'une manière nécessaire. Elles s'imposent d'une manière nécessaire parce que le sujet qui est universel a cette possibilité de s'actuer dans des sens différents. Et en s'actuant dans des sens différents, il me permet à ma connaissance de s'accroître, de connaître de nouvelles relations. Donc, pour qu'il puisse y avoir progrès scientifique, intellectuel et scientifique, il faut nécessairement que le sujet qui est attribué puisse progresser dans le sens où l'actuel. Que le sujet puisse recevoir de nouvelles attributions et que ces attributions puissent être vérifiées comme nécessaires. Bon. Ceci, c'est les conditions nécessaires à tout progrès intellectuel, c'est-à-dire à tout raisonnement, à toute démonstration. Il faut ça. Mais c'est pas suffisant. Ce sont les éléments matériels pour qu'il puisse y avoir un progrès scientifique. Il faut cela. l'organisation. Pour qu'il puisse y avoir un progrès, il faut une interrogation. L'âme de tout raisonnement, c'est l'interrogation. Pour que l'interrogation puisse exister, il faut avoir en nous-mêmes comme une annonce de la solution. C'est ça qui est le plus important. Qu'est-ce que c'est qu'interrogation? L'interrogation, c'est la prévision de la solution. Vous n'interrogeriez jamais s'il n'y avait pas une prévision de l'interrogation. C'est ça qui est très curieux, qui est l'esprit d'invention. Qu'est-ce que c'est que l'esprit d'invention? Comment ça se fait qu'il y en a qui ne prévoient jamais rien? Jamais rien. Même leur professeur qui leur donne une thèse à faire. Si le professeur n'a aucun source de génie, un petit peu de gingembre, qui fait avancer, il soupe d'or. Alors, il est inventif. C'est plus élégant de dire inventif. Il va dire, il y a des chances que ce soit ça. Creuser par là. J'ai vu comme ça un étudiant une fois, c'était en chimie. Son professeur n'avait absolument rien du tout de possibilité. Alors il lui indiquait toujours des avenues sans issue. Il travaillait depuis 7 ans. À toutes ces expériences qu'il faisait, il n'y en avait aucune qui permettait une issue. Pourquoi? Parce qu'il était très fort en thème. Il n'avait aucun sens des choses. Mais il connaissait tout. Oui, le fort en thème. Et alors il se demandait pourquoi ça n'avançait pas. C'est parce que votre professeur ne vous indique pas la route. Il devrait l'indiquer. Un bon professeur, quand il a un bon étudiant, et lui indique une issue qui est encore très voilée, mais qui est une véritable issue. Si au contraire vous mettez quelqu'un sur une recherche qui n'aboutit pas, il pourra chercher indéfiniment, ça n'aboutira jamais. Alors le professeur se fâchera contre lui. C'est contre lui qu'il devrait se fâcher. Parce que il indique une voie sans issue. Alors, il peut chercher indéfiniment. Oui, l'invention en science, ça dépend de l'interrogation. Il faut se bien situer. Si vous vous situez à contre-jour, pour photographier quelqu'un, vous n'aurez jamais rien. Il faut bien se situer pour pouvoir bien photographier. Photographier, c'est pas encore l'intelligence, c'est la description. Mais quand même, il y a de très bons photographes. Ils sont comme des artistes. Qu'est-ce qui fait un photographe bon? C'est tout simplement la situation dans laquelle il se mettra. La morale de situation, l'art de situation, c'est l'art du photographe. Alors, si le professeur indique, parce que normalement c'est lui, fait tout le trajet. Si le professeur indique une manière de regarder les choses, et à partir de là, une manière d'interroger, immédiatement, il y aura une issue. Et s'il est dans la bonne issue, les choses s'accumuleront, ça ira très bien. Si vous êtes dans une mauvaise issue, vous ne ferez jamais rien. Alors, voyez, toute démonstration, toute invention inductive, intelligences inventives qui tout de suite sous vos dos sentent que c'est ça. Il doit y avoir là. Vous savez, c'est Platon qui disait que l'induction c'était comme le chien de chasse. C'est très joli, tu vois. C'est une image, évidemment. C'est symbolique. C'est comme le chien de chasse. Le chien de chasse sent qu'il y a un gibier. Il a le nez de son chien de chasse pour que son nez arrive à dépister le gibier. Lui est incapable. Mais si le chien de chasse est là, immédiatement, il fera lever le gibier. Il fera lever le gibier. Celui qui est un chien de chasse intellectuel fera naître le gibier. Personne ne voit rien. Lui sait. Du moins, il sait à peu près. Interroger, pour découvrir, comme le chien de chasse.